C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 113 du 21 avril 2025. Au sommaire aujourd'hui, queer et en situation de handicap, comment se vit cette double marginalisation? Une étude pour le savoir. Changer la game, une initiative du réseau des lesbiennes du Québec pour rendre le milieu sportif québécois plus inclusif pour les personnes lesbo-queer. Et puis, c'est notre culture queer qui revient avec de l'humour, des livres et des films. On reçoit l'humoriste Joël Prudhomme, l'auteur Daniel French et nos collaborateurs habituels Brian Saint-Louis et Donald Bilodeau.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Eh bien, soutenir la participation sociale des personnes aînées LGBTQIA+, en situation de déficit capacitaire, donc on parle de troubles de santé physique ou mentale, favorise leur santé et leur bien-être. C'est le sujet d'une étude importante qui est menée, c'est une première étude en fait sur ce sujet qui est menée par Le Gris, Estrie et l'Université de Sherbrooke. Et pour en discuter, je reçois Samuel Beaudoin, qui est directeur général de Gris, Estrie, et Dolores Mahon-Valpuesta, qui est chercheur postdoctoral du Centre de recherche sur le vieillissement à l'Université de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour, merci.
Alors,
bonjour, merci.
Chaque fois que nous avons de nouveaux invités ou de nouvelles invitées, on leur demande quel pronom et quel accord on utilise avec toi d'abord, Dolores.
Elle, c'est bon.
C'est bon. Et Samuel?
Ça va être il. Merci.
Alors, la population vieillit, c'est pas nouveau. On le lit dans tous les journaux, on le voit, c'est indéniable, surtout en Occident et notamment au Canada et au Québec. Donc, les démographes l'ont démontré et les communautés de la diversité sexuelle et de genre n'y échappent pas. Et souvent, ben, avec le vieillissement, il y a des enjeux capacitaires, que ce soit au niveau physique et, ou même psychologique. Alors, je vous pose la question à vous deux. En quoi c'est important de mener une telle étude auprès des populations de la diversité sexuelle et de genre?
Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Et en fait, pour le Gris Estrie, ce qui nous a motivés en amont d'abord, c'est vraiment tout ce qui est inclusion des réalités des personnes en situation d'exclusion sociale. Donc, pour nous, c'était particulièrement riche de réunir tout ce qui est handicap, donc personnes ayant un handicap, tout ce qui est personnes de la diversité sexuelle et pluralité de genre, et aussi la réalité des personnes de 40 ans et plus. Donc, on a remarqué vraiment à partir de 40 ans qu'il y a quand même vraiment un isolement social qui se crée en raison, bon, il y a un départ progressif ou des fois un départ permanent, là, ça dépend à quel âge et quelle profession, du milieu de travail, des fois qui va isoler les personnes. C'est quand même principal comme réseau social finalement, c'est pour les adultes, le milieu de travail. Donc déjà, il y a ça qui commence et pour juste l'âge, mais là, si on ajoute tout ce qui est diversité sexuelle, pluralité de genre, mais les personnes ont souvent peut-être moins accès à leur famille ou ont plus d'isolement social aussi en lien avec la discrimination vécue. Si les personnes vont dans des milieux comme des RPA, il peut y avoir aussi des situations discriminatoires qui sont vécues là-bas pour diverses raisons. Donc, les personnes ne se connaissent pas nécessairement. Des fois, il n'y a pas nécessairement de valeur d'inclusion ou c'est très difficile à les appliquer parce que les RPA ont quand même beaucoup de choses à faire. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là, qui font en sorte qu'ils se retrouvent dans l'exclusion sociale. Et ce qu'on voyait quand on ajoutait tout ce qui est handicap, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés d'accessibilité. Et là, ben, même si on veut favoriser l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité universelle et tout ça, au-delà de ça, au-delà des adaptations qu'on peut faire pour les différentes activités ou implications, il y a quand même un enjeu aussi au niveau l'implication de l'inclusion plutôt de leur réalité au niveau de leur énergie, leur niveau d'énergie, aussi une façon que ce soit réaliste finalement pour ces personnes.
Dolores.
Oui, dans la recherche, il y a beaucoup de littérature qui parle de l'importance de l'intersection de différents conditionnements et comme Samuel a parlé, mais il n'y a pas beaucoup de recherches exploratoires avec des personnes de 40 et plus. Donc, je pense que pour tout ce que Samuel a parlé, c'est important de promouvoir ce type de recherche plus focalisé sur une population adulte et des personnes âgées. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes ici avec la recherche qui actuellement en développement à l'Université de Sherbrooke en collaboration avec les Estrie.
Je sais que Samuel a abordé un peu cette question-là, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus, là. On parle d'une double marginalisation, parce qu'il y a celle d'être queer et on parle aussi d'une personne en situation de handicap. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est queer d'avoir une situation de handicap ou d'avoir un. Je vais utiliser le mot déficit capacitaire, je ne sais pas si c'est peut-être moins péjoratif comme expression, là, mais est-ce que ça joue, c'est plus difficile dans ces situations-là? Ah, Dolores, vous voulez, oui, allez-y,
Ouais,
oui.
veux-tu y aller, Dolores?
Oh oui,
Oui.
ben oui, mais c'est pas uniquement que c'est plus compliqué, c'est l'intersection des deux conditions. Si la condition d'incapacité, c'est un grand obstacle pour la participation sociale, je me rappelle d'une étude qui parle tu dois décider. Quelle discrimination est-ce que tu veux, non? La discrimination pour la diversité sexuelle et pluralité de genre, ou la discrimination pour une capacité. Mais il n'y a pas d'information sur cette double, sur l'interaction de les deux discriminations, non? Donc, ça, je pense que c'est la clé de c'est le plus important, c'est l'intersection de les trois conditions.
Puis je pense, Samuel, tu voulais ajouter quelque chose, oui.
Bien, certainement, ça va un peu dans le même sens, mais au niveau des discriminations systémiques aussi, tu sais, ça se multiplie lorsqu'on vit différentes réalités. Donc, certainement, si on fait partie de la diversité sexuelle et pluralité de genre et qu'on a un handicap, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès. Puis on sait aussi que c'est très, très, très important pour les personnes en général, mais spécifiquement 40 ans et plus, d'avoir accès à des milieux pour pouvoir s'impliquer puis redonner finalement. De plus en plus que les personnes vieillissent aussi, de plus en plus que c'est important, c'est quand même des valeurs qui leur sont généralement très importantes. Donc, de leur couper cet accès-là, en plus de les discriminations vécues, ça peut être aussi un enjeu.
Alors moi, je vais me permettre, parce que je suis un homme queer, je vais me permettre de parler de quelque chose qui affecte les hommes, puis on pourra peut-être extrapoler si on veut, le culte de la jeunesse, de la beauté et du corps parfait. Alors, ça, c'est vraiment très fort chez les hommes gays. Alors, imagine que tu es une personne queer et en situation de handicap. Est-ce que c'est un problème que j'invente ou c'est vraiment un vrai problème, ça? Oui, je vois les sourires en réponse. Je vous l'ai dit qu'à cette émission-ci, il n'y a pas de questions qu'on ne pose pas.
Je pense qu'il y a une chose très importante qui la recherche dit, qui c'est que dans les contextes de la pluralité de la pluralité sexuelle, la pluralité des genres, il y a une discrimination de cette population argent incapacité, non? C'est comme dans une communauté, il n'y a pas de reconnaissance de l'autre type de discrimination. Et parfois, dans la communauté de personnes agent incapacité, il n'y a pas une reconnaissance de cette condition de la pluralité des gens. Donc, je pense que la problématique vient que la personne se sent dans sans place dans une communauté ou dans une autre. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est les défis pour cette personne. Je ne sais pas si Samuel lui dit quelque chose de plus.
C'est parfait. Est-ce que je pourrais ajouter peut-être au niveau terrain, des fois, ce qu'on peut observer, c'est l'espèce de mythe qui peut peut-être aller dans le même sens que vous dites, là, Denis Martin, au niveau du militant parfait ou de la militante parfaite, puis qui c'est un petit peu la même chose au niveau du culte de la beauté, mais c'est un autre type de perfection qu'on parle. Donc, peut-être à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'exigences ou de pression ressenties par les personnes. Donc, déjà, elles vivent des discriminations, puis elles vivent des difficultés supplémentaires. Et là, elles ressentent cette pression-là, donc c'est encore plus difficile de s'impliquer. Ça, c'est ça.
Juste rapidement, avant qu'on parle directement de ce que vous allez faire avec votre étude, une personne queer, il y a d'autres études qui le démontrent, là, on l'a vu récemment, je pense, avec Interling, sont moins enclines à aller chercher du soutien d'un professionnel de la santé. Alors, comment ça affecte quelqu'un qui se retrouve, donc une personne queer qui se retrouve en situation de handicap?
C'est certain que c'est beaucoup plus difficile pour une personne en situation de handicap. Ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'il y a des personnes disons, à certaines intersections. Il y a très peu de ressources qui existent aussi. Si je parle d'une autre intersection, mais qui fait un très bon exemple de manque de ressources, c'est au niveau précarité financière, personnes de LGBTQ+. Donc, il y a très, très, très peu de ressources qui sont disponibles à ce niveau-là. Si on ajoute l'itinérance là-dedans, c'est presque inexistant, là. Donc, souvent, les gens vont essayer d'aller, par exemple, dans des ressources. Là, je reviens au sujet principal. S'ils vont dans des ressources au niveau d'un handicap, peut-être que leur réalité au niveau de la diversité sexuelle et pluralité de genre ne sera pas tout à fait maîtrisée, puis ça va être difficile à bien accompagner la personne, ou du moins est-ce que la personne a peur, ça peut être ça. Puis sinon, si elle va aller dans un organisme pour les personnes de la diversité sexuelle et pluralité de genre, ben là, c'est le contraire. C'est sa réalité au niveau de son handicap est peut-être plus difficilement intégrable ou plus moins bien compris finalement.
Bien, on va aller tout de suite parler de votre étude. Comment ça va fonctionner?
Bon, et cette étude, c'est une étude de l'Université de Sherbrooke en collaboration avec Desestrie, financée pour Société inclusive. Les investigateurs principaux sont la professeure Mélanie Levasseur, la professeure Mélanie Couture, mais nous avons beaucoup de collaborateurs comme Interline, Fondation Emergence, des citoyens et autres collègues de l'Université Laval, l'Université Simon Fraser à McGill. L'objectif général de ce projet, c'est de co-construire des outils favorisant l'environnement inclusif pour la participation sociale des de personnes de la diversité sexuelle et pluralité de genre, agents incapacités. Et actuellement, et nous sommes en recherche de personnes participant pour ce projet. Cette personne doit être élevée de 40 ans et plus. De la diversité sexuelle et pluralité de genre et agent en restriction. On pouvait parler d'une restriction dans une activité quotidienne, résident à la province du Québec. Et je voudrais clarifier quand on parlait d'incapacité parce que je sais que parfois il y a comme une idée de que l'incapacité c'est aussi juste la certification de mon de les médecins de le service de santé de que j'ai une incapacité, mais c'est pas ça l'idée de ce projet. Donc nous sommes très inclusifs qu'avec les types d'incapacités ou des difficultés qu'on considère, donc pour être associé à diverses conditions de santé mentale comme dépression, syndrome de stress post-traumatique ou physique, comme problèmes moteurs, sensoriels, auditifs, visuels, et aussi des personnes séropositives aux personnes qui avec neurodivergents modérés, occupés comme avoir une entrevue qui comprend les questions pour une entrevue de 45 minutes. Donc, l'idée, c'est de demander des collaborations des participants avec une entrevue individuelle de 45 minutes et on favorise que l'entrevue est en ligne parce que c'est pour toutes les personnes de tout Québec
Oui,
on
il
voulait
y a des
qu'on.
enjeux de déplacement. Je voudrais peut-être continuer là-dessus. On va donc faire ces entrevues. Il y aura donc on va faire une espèce d'analyse de ces entrevues, de ces données, et ça va donner quoi au bout du compte? À part un rapport, oui.
Oui, l'idée, ben, le troisième objectif, nous avons comme trois objectifs d'identifier les besoins de la participation sociale de cette population. Un deuxième objectif, c'est d'identifier les barrières et les obstacles. Et le troisième objectif, que je pense que c'est comme clé, c'est de co-créer une campagne de sensibilisation. Pas seulement pour les professionnels ou les décideurs impliqués sur la participation sociale de la population en général, mais aussi pour les grands publics. Donc, on a pensé dans les projets, on inclut comme trois modalités de vulgarisation de connaissances parmi des conférences, des podcasts, des capsules vidéo, des infographies. Et on va faire ce matériel dans trois langues, en français, en anglais et en espagnol. Donc, l'idée, c'est comme de faire le plus extensif, les résultats de la recherche pour la sensibilisation en général. Je ne sais pas si Samuel qui veut impliquer
Oui.
une autre chose.
Ben, oui, justement, Samuel, ça va nous donner donc des outils, j'imagine, quand on aura terminé cette étude-là.
Exactement, exactement. C'est l'objectif d'avoir des outils pour favoriser leur inclusion finalement dans les milieux. Puis là, on a différents types de milieux, mais je sais qu'au Gréestry, on a vraiment beaucoup d'enthousiasme à voir ces outils-là être créés pour que nous, dans notre milieu et dans nos milieux le partenaire, on puisse essayer de les intégrer, ces outils-là, pour favoriser la participation sociale des personnes aînées. Je pense qu'une chose qui était vraiment très, très claire lorsqu'on s'était rencontrés initialement, là, Dolores et moi, pour discuter de la potentielle collaboration, on s'est rendu compte que ça fait presque 2 ans. Donc, un petit moment. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était vraiment que ce soit concret. Donc, c'est une étude, mais aussi avec des retombées concrètes, des outils qui en ressortent. C'est vraiment notre objectif. C'est pour ça aussi que les entrevues, là, au niveau des détails, je suis pas chercheur, je vais laisser Dolores s'exprimer s'il y a lieu, mais au niveau des entrevues, c'est fait de façon que ce soit interactif, puis que la personne puisse vraiment s'exprimer de façon qualitative. Donc, on manque pas de données. Tu sais, c'est pas très, très, c'est pas juste sur le quantitatif. Il y a une belle valeur qualitative aussi qui va ressortir, qui va nous permettre de bien interpréter les résultats finalement à la fin.
Bien, on ne peut que féliciter cette superbe initiative, puis je pense que nos communautés en ont grandement besoin. Et je vais certainement vous réinviter pour parler de ces résultats en temps et lieu. Merci beaucoup, Dolores Mahon-Valpuesta et Samuel Beaudoin, donc, pour parler de cette étude sur le vieillissement, les déficits capacitaires et d'être queer. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci à
C'est
vous pour
l'heure où
l'invitation.
l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Le 26 avril est la journée de visibilité lesbienne. Cette journée, cette année, le réseau des lesbiennes du Québec met de l'avant la place des personnes lesbo-queer. D'ailleurs, je vais demander de nous définir lesbo-queer à mon invité dans le sport. Et pour en discuter, donc, je reçois Cynthia Essérick.
Bonjour,
Bonjour,
bonjour.
directrice générale du RLQ. C'est la première fois qu'on te reçoit à
Oui,
l'émission.
très heureuse d'être là.
Bon, alors, comme c'est la première fois, on va te demander quel pronom et quel accord tu utilises.
Oui, j'utilise le pronom elle et les accords féminins.
Alors, commençons donc par le mot lesbo-queer.
Oui.
Parce que moi, je parlais des lesbiennes, mais lesbo-queer, c'est quoi la différence?
En fait, le réseau, depuis quelques années, se pose beaucoup la question. Il y a de plus en plus, dans les nouvelles générations, qui ne s'identifient pas nécessairement comme lesbiennes. Donc, c'est des personnes qui vont s'identifier comme queer, comme femme queer, comme lesbienne non-binaire. Donc, on voulait avoir une expression qui regroupait toutes ces personnes-là parce qu'au bout de la ligne, on représente la même population. Donc, on s'est dit qu'en prenant le terme lesbo-queer, on prend toutes les personnes qui ont une identification de genre qui est non-femme ou femme et autre terme, parce que des fois, il y a des personnes qui utilisent plusieurs termes, mais ça implique aussi les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, mais aussi, encore plus, ça identifie les personnes qui sont en relation lesbienne. Donc, on parle des personnes bisexuelles, des personnes pansexuelles qui ont des relations qui peuvent apparaître à l'extérieur ou que les personnes elles-mêmes identifient comme étant lesbiennes.
Bien, c'est clair. Alors, commençons par la journée de visibilité lesbienne.
Oui.
Si on a cette journée annuelle, bien, c'est parce qu'on va se le dire. Les lesbiennes, les femmes les personnes lesbo-queer sont pas mal invisibles dans notre société.
Pas mal.
Tu me sens que ça s'améliore pas beaucoup. Est-ce que je me trompe?
Non, ça s'améliore pas. C'est sûr que tu sais, les lesbiennes vivent. Puis je vais utiliser lesbiennes et lesbo-queer tout au long de cette
Il n'y a pas de
entrevue-là,
problème,
un
on
peu de
comprend de
façon
qui tu parles,
parfaite.
oui.
Dans le fond, c'est ça, elles manquent beaucoup de visibilité. Elles sont victimes de lesbophobie, qui est l'intersection de l'homophobie et du sexisme. Et c'est sûr que dans n'importe quelle sphère, le sexisme cause de l'invisibilisation. Donc, c'est quelque chose qu'on lutte depuis de plusieurs années. C'est la 43e année que la journée existe, puis on manque encore de visibilité. Donc, imaginez.
Ah non, mais c'est vraiment sérieux.
Ouais.
Et en fait, parfois, je faisais à la blague, je pense que les seules femmes lesbiennes qui ont une certaine visibilité, c'est celles qu'on retrouve sur Pornhub, mais c'est pas du tout la même chose dont on parle ici.
Non, c'est pas du tout la même chose.
Bon, alors c'est des lesbiennes pour hommes hétéros. C'est une autre paire de manches.
Oui.
Comment faire, donc, pour que rendre... Ben là, je pose la question à la personne qui travaille là-dessus, puis il y en a eu pendant 43 ans avant,
Ouais.
mais comment on peut faire pour améliorer la visibilité des femmes lesbo-queer ou lesbiennes?
Ça part par des modèles. C'est comme un classique, là,
Oui.
mais avoir des modèles, avoir des personnes qui sont out, puis qui sont fières de l'être, puis qui en parlent, puis que ça ne devient pas et qu'elles n'ont pas peur d'en parler. On a vu beaucoup dans la culture, dans le sport, dans plein d'autres milieux que les personnes lesbiennes ne veulent pas faire leur coming out parce qu'elles ne veulent pas être étiquetées comme la lesbienne ou elles ne veulent pas porter ce drapeau-là, ce qui est vraiment dommage, mais ça fait en sorte qu'il y a moins en moins de personnes qui sont visibles, puis on ne sait pas qui elles sont, ces lesbiennes-là. T'sais. Si on parle dans le milieu québécois, on peut nommer vite, vite comme ça 5-6 personnes. Il n'y
C'est
en a
vrai.
pas beaucoup.
C'est vrai. Tu sais, il n'y a Ariane Moffat. Alors, je pense que c'est le premier nom
Oui.
qui nous vient en tête parce que, bon, elle est assez connue, mais
Ouais.
effectivement, il n'y a pas autant de modèles. Alors, cette année, vous avez décidé de parler D'aller voir dans le sport, on ne peut peut-être pas trouver des modèles là, mais c'est parce qu'il y a vraiment des enjeux. Alors, on parle de changer la game. J'aime beaucoup le slogan.
Oui.
Parlez-nous de cette campagne.
En fait, l'idée m'est venue l'été dernier, plus au printemps, là, après avoir été voir un match de la victoire.
Oui, notre équipe de hockey qu'on aime beaucoup.
Oui.
Parce que, gang!
Oui, c'est ça. Donc, j'étais allée la voir et je me suis dit, Caline, les dernières années sont tellement lucratives en termes de sport féminin. Puis là, il y a en plus la Ligue de soccer professionnelle qui commence cet été. Donc, c'est le temps d'en parler. Parce que d'un côté, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement, il n'y a pas beaucoup de lesbiennes dans le sport qui sont out puis qu'on en entend beaucoup parler. Je veux dire, on pense à une ou deux personnes, mais à part ça, c'est plus difficile. Puis de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui... des femmes hétéros qui font du sport, qui sont étiquetées comme lesbiennes et c'est vu de manière négative. Donc, c'est vraiment dommage parce que quand on pense, par exemple, à d'autres milieux professionnels de masculins, mettons, on connaît toutes les blondes des Canadiens, on connaît tous leurs enfants, on connaît tous leur vie, mais on dirait que du côté des femmes, déjà qu'elles manquent de visibilité, ben on n'entend pas parler de ces côtés-là parce que c'est un peu mal perçu puis elles ne veulent pas être étiquetées. Voilà. Fait qu'on veut changer la game, on veut améliorer ça, on veut que ça fasse juste partie du quotidien.
Moi, il y avait de bonnes amies lesbiennes qui m'ont déjà dit un des problèmes, en fait, ce qui explique un peu ce manque de visibilité, c'est aussi le fait que les femmes ne sont pas socialisées pour se mettre de l'avant. Ça
ne
change toujours pas. Alors, mm-hmm. C'est vraiment, c'est au-delà d'être lesbienne, c'est vraiment le bon vieux sexisme qui frappe à la porte.
Oui, tout à fait. C'est tellement difficile, il faut changer les racines d'une société. On essaie de le faire de petit à petit. Puis c'est sûr qu'en plus, si ces personnes-là, par exemple, font leur coming out, puis on entend parler, mais elles vivent tout plein de discrimination ou de la violence ou de la haine, ça n'encourage pas les autres personnes à vouloir suivre le train puis vouloir faire leur coming out aussi.
Ben justement, parlons-en de ces discriminations parce que vous avez sorti des chiffres qui sont assez éloquents.
Mm-hmm. Donc, c'est ça, dans les chiffres de Statistique Canada, là, je les ai plus sur le bout de la langue, mais merci, justement. C'est ça, 67 % des athlètes LGBTQ+, et 85 % des athlètes trans ont vécu au moins un épisode d'homophobie et ou de transphobie. C'est énorme.
Ouais.
Puis, ça implique pas les personnes qui s'identifient pas dans la population, qui sont étiquetées par ces termes-là, comme les personnes femmes hétéros qui se font traiter de lesbiennes parce qu'elles sont sportives. Donc, il y a comme une association entre les deux un peu négative. Il y a aussi 42 % des Canadiens gays et des Canadiennes lesbiennes qui ont été victimes d'au moins une discrimination dans un contexte sportif. Là, c'est énorme. C'est presque la moitié.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qu'on essaye de changer. Puis, il y a aussi, finalement, alors on le sait tous, les vestiaires qui restent un enjeu pour vraiment beaucoup de personnes. On encourage toujours à ce qu'il y ait des vestiaires pour les personnes qui s'identifient comme hommes, des vestiaires pour les personnes qui s'identifient comme femmes, puis des vestiaires uniques ou en tout cas séparés pour les personnes qui ne sont pas confortables ou qui veulent juste avoir un espace individuel.
Alors, à qui s'adresse cette campagne?
La campagne s'adresse aux grandes associations sportives au Québec. Donc, on veut que ces associations-là soient plus inclusives, avoir des politiques antidiscriminatoires, qu'elles soient inclusives pour les personnes lesbo-queer. Mais on s'adresse aussi aux personnes elles-mêmes qui font du sport. On les encourage à faire leur coming out, en parler. Puis, on espère que les alliés vont être en support à ces personnes-là, puis aider à les protéger de la victimisation ou de la haine qui peut survenir.
Là, Cynthia, tu as parlé tantôt de vestiaire.
Ouais.
Et là, tu connais le climat dans lequel on est présentement.
Ouais.
Alors, cette campagne-là, est-ce qu'elle a aussi une connotation qui pourrait devenir très politique?
C'est possible. On essaie toujours que la journée de visibilité lesbienne, ce soit une journée qui soit positive. Donc, évidemment, pour qu'on puisse défendre nos points puis argumenter, il faut se baser sur des chiffres. Et on sait que les dernières années pour les toilettes et les vestiaires, ça a été assez rock'n'roll. Mais ce qu'on veut, c'est juste faire plus de place.
Oui. Puis surtout que j'ai l'impression que certains politiciens et politiciennes instrumentalisent ces enjeux-là, qui sont parfois des faux débats.
Oui.
Hein, quand on parle des vestiaires, quand on parle de la place des femmes trans dans le sport...
Mm-hmm.
Il y a quelque chose qui est... j'ai l'impression que c'est instrumentalisé, ça, dans les...
Oui, tout à fait. Puis on a parlé aussi des femmes trans dans le sport quand on a construit notre campagne. Et on s'est rendu compte en voyant les chiffres que c'est comme un enjeu, mais seulement au niveau très, très haut. Donc, au niveau très professionnel olympique, mais au niveau du sport amateur, du sport au niveau à l'échelle du Québec, par exemple, c'est pas tant que ça un souci. Je veux dire, c'est une infime partie, les personnes trans. Donc, qui font du sport c'est un faux problème, c'est un faux débat. Les personnes sont bienvenues dans le sport et c'est tout, là. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus.
Puis peut-être qu'il faudra peut-être revoir comment on fait ces fameux... on a on fait homme-femme, peut-être qu'on devrait aller en catégorie de poids, en catégorie...
Exactement.
Ouais, il y a des choses à revoir là-dessus.
Ouais.
Donc, la journée de visibilité lesbienne, c'est cette semaine, c'est le 26 avril.
Oui, exactement, c'est samedi.
Alors, il y aura une grosse manifestation, est-ce qu'il y a des choses de prévues?
Oui, dans le fond, nous, on fait un événement au 8 Queen, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à venir. On va avoir une remise de prix, il y a des panels, il y a des ateliers de personnes aussi qui font partie du milieu sportif, que ce soit des ostéos, des entraîneurs privés. Donc, ils vont être là pour pouvoir... on va pouvoir festoyer ensemble. Ça va, comme je le dis, là, notre objectif, c'est que ça soit... la visibilité, que ça soit positif.
Et les gens qui veulent prendre connaissance de cette campagne Changer la game, ils vont trouver ça où?
Visibilitélesbienne.com ou directement sur Facebook Journée de visibilité lesbienne.
Bien, merci beaucoup, Cynthia Siric, d'avoir été avec nous.
Merci de l'invitation, c'est très apprécié.
Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Après cette courte pause, c'est Culture Queer qui vous revient. On va faire dans l'humour avec Joël Prudhomme, qui est humoriste, la tournée Le Show Queer qui se promène en région. On va aussi rencontrer l'auteur Daniel French. Puis on va parler de littérature avec Brian Saint-Louis. Et on va parler aussi de films avec Donald Bilodeau, tout de suite après la pause.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Eh oui, c'est Culture Queer, notre happening culturel mensuel. Et on reçoit plein de monde en studio et aussi en ligne à Québec. D'abord, je vais commencer par présenter notre chroniqueur littéraire à Québec, Brian Saint-Louis. Salut, Brian.
Ton lointain personnage. Oui, bonjour.
Mon lointain personnage, ben c'est pas si loin que ça, Québec. Là. De toute façon, je vais souvent à Québec puis on se rencontre au gym. Faut le faire. Donald Bilodeau, salut.
Salut, salut. Bonjour.
Alors, j'ai oublié on va parler de littérature, mais toi, tu vas parler de films aujourd'hui.
Oui.
Et j'ai deux autres invités avec nous autour de la table. L'auteur Daniel French.
Oui, salut, Denis Martin.
Salut, salut. Alors, on va parler de ta nouvelle production que j'ai avec moi ici, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et aussi, on reçoit une humoriste, Joël Prudhomme.
Bonjour,
salut.
Bonjour, bonjour.
Hey, c'est le fun. Oh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu d'humour à cette émission-là. On n'en a jamais.
Non. Ah, ben, c'est un honneur.
Ben, on va commencer par toi.
Tiens. OK.
Oui, parce que puis ça se peut que les autres interviennent, on verra. Alors, le show Queer, tu as créé ça en 2022.
Oui.
Ça rassemble des humoristes issus des communautés de LGBTQIA+, dans un espace inclusif et bienveillant, puis vous êtes en tournée au Québec. D'où est venue cette idée-là?
Mon Dieu, ça date, oui, c'est ça, 2022. L'idée venait d'une frustration, en fait, pour être très honnête. Je regardais qu'est-ce qui s'était fait au Québec comme dans les festivals d'humour. Puis quand j'ai vu qu'il n'y avait jamais eu de show queer, ça m'avait vraiment fâchée. Puis c'est ma coloc qui m'avait dit, ben Joël, fais-en un. Puis à l'époque, j'avais un gros syndrome de l'imposteur parce que je sais pas, ça faisait pas si longtemps que j'avais fait un coming out. J'étais une femme bi, fait que c'était plus complexe pour moi. Puis ça a vraiment été ce show-là, le fait que je trouvais ça important que ça existe, qui a mené à ce beau spectacle-là qui, trois ans plus tard, est encore plus gros, plus beau, plus inclusif. Fait que je suis bien fière de ça.
Un show queer d'humour, comment ça a été reçu par le public?
Hey, tellement bien. D'ailleurs, la première édition en 2022, c'est ça qui m'a donné envie de faire une tournée parce que la réponse était tellement le fun. Ça a comme créé un grosse bulle dans la salle, gros safe space que j'avais pas calculé. Moi, je voulais juste que le show existe. Puis finalement, la réponse m'a donné envie d'aller plus loin avec le projet. Puis la réponse est encore la même. Encore aujourd'hui, nos salles sont pleines. Presque toutes nos représentations, c'est salles pleines. Mais malgré le fait que les salles sont pleines, il y a comme un sentiment d'intimité autant avec les artistes que le public, c'est vraiment chouette.
Parlons de tes invités ou des artistes qui travaillent avec toi. Il y en a plusieurs.
Oui, on est beaucoup. C'est comme un bassin d'humoristes.
Il y a Trana Wintour.
Oui, Trana, entre autres, c'est une de nos... j'allais dire OG, mais c'est une de nos premières là, à avoir fait le show puis elle est avec nous sur beaucoup de spectacles. Ouais.
Alors, puis là, je vois, il y a Charlie Morin, Sam Cyr, bon, Joël Prudhomme, évidemment. C'est vraiment, vraiment toute une panoplie de personnes de différents horizons.
Oui, puis j'ai l'impression que... ben pas j'ai l'impression. C'est un spectacle qui est facile à booker comme, pour aller chercher des artistes queer parce que c'est un show qui est super le fun pour elle aussi.
Ouais.
De monter sur scène puis d'avoir déjà un pas de fait là, vers l'inclusivité puis de pouvoir parler de n'importe quoi parce que c'est pas un thème. Là. Les artistes ont carte blanche. Et elles parlent de ce qu'elles veulent, mais... c'est vraiment juste de savoir que le public est là pour ça, accepte déjà qui on est. Fait que c'est comme un... pour les artistes, un petit cadeau, je pense, un petit bonbon là, dans les spectacles.
Là, je vais poser une question, puis je vais d'abord et avant tout dire à tout le monde, n'oubliez pas, là, on est bienveillant ici, mais il y a quand même des questions à se poser.
Oui.
Vous êtes allé jouer dans des régions où c'est peut-être pas aussi facile.
Ouais.
Est-ce que je peux nommer peut-être, vous êtes allé au Saguenay?
On est allé au Saguenay, en Abitibi. Moi, j'avais cette petite crainte-là que si on s'éloigne, qu'on soit buté là, à certaines personnes qui ne seraient pas d'accord. Mais à l'inverse, ça fait que je pense que certaines régions qui n'ont pas accès à des safe spaces queer autant qu'ici à Montréal ou autant qu'en région, près de Montréal, je veux dire. Ce qui fait que la réponse est encore, je dirais, meilleure. Nos spectacles les plus fou, c'était à Rimouski, c'était en Abitibi, c'était justement au Saguenay, c'était incroyable. Fait que je pense que les gens ont besoin d'endroits pour se retrouver comme ça, puis rire, parce que ça reste un show d'humour, on parle de plein d'affaires. Fait que non, la réponse était étonnamment meilleure qu'à Montréal, c'était vraiment le fun.
Bon, souvent, ce qu'on va nous dire, on ne peut plus rien dire, ils n'ont pas le sens d'humour. Là, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'on a le sens d'humour, nous autres, les personnes de la diversité? Est-ce qu'on est drôle? Est-ce qu'on peut... on rit dessus, nous autres?
Ben, moi, je suis vraiment bon public, et pourtant, je suis très queer. Fait que je pense qu'au contraire, les public les plus chaleureux, c'est des gens queer. On rit fort. La seule affaire, c'est qu'on rit avec des numéros qui viennent pas heurter notre identité. C'est un peu ça qu'on offre avec le show. C'est « Hey, venez rire, puis vous n'aurez pas les fesses serrées. Vous allez être relax. On va pas vous confronter dans quoi que ce soit. » Fait que non, au contraire, les gens sont vraiment généreux.
Il y a les drag queens qui ont beaucoup aidé aussi.
Absolument.
Ça a énormément contribué.
Et les drag kings.
Et les drag kings aussi.
Oui, ouais. Les drag kings qui se moquent beaucoup du patriarcat. C'est vraiment drôle.
Tout le burlesque aussi, oui. Ouais.
Est-ce que toi, de ton côté, Brian, est-ce qu'on est drôle, les personnes queer?
Certaines personnes, oui, certaines moins. C'est une question de talent aussi, mais on peut rire de tout, là. Donc, c'est de savoir bien le faire, voilà.
Ouais.
Daniel, toi qui écris, tu fais beaucoup d'humour dans ton écriture.
Oh,
puis tu écris très queer aussi.
Oui, puis attention à mon prochain roman qui va être top comique.
Ah, oui!
J'en parlerai tantôt.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je peux te dire que je fais de l'humour de temps en temps. Je suis monté sur scène où je me suis... En fait, ce qui est le fun, c'est de l'autodérision. Je me suis moqué du fait que j'étais vieux puis que je pognais plus.
Et...
OK. Ouais. Disons que, après ça, j'avais le goût de pleurer, mais...
Oui, c'est un métier, hein? Il faut faire nos classes.
Alors, on va pouvoir te voir bientôt où, quand, comment.
Mon Dieu, mais là, la tournée, le plus simple, c'est d'aller suivre nos réseaux sociaux parce qu'on rajoute des spectacles de semaine en semaine.
Donc, le show queer sur tous les réseaux sociaux.
Oui, absolument. Le show queer, ça peut aussi être Joël Prudhomme, mais le plus simple, c'est vraiment le show queer. Puis là, prochainement, c'est Sherbrooke, Chelsea. On retourne dans le coin du Saguenay, mais plus loin, on s'en va à Jonquière. Pierre, Bécomo aussi en juin, puis en Abitibi cet été. Ça ressemble pas mal à ça.
Ben, on a hâte d'aller voir ça. Tu restes avec nous, on continue.
Oui, merci.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Ah, il y a de l'ambiance dans le studio, ça rit depuis tantôt, ça fait du bien. Ce segment d'émission, ça nous fait du bien. Et je vous dis, c'est le dernier de l'année parce que, on ne l'a pas annoncé, mais l'émission, on est amputé d'un mois cette année pour des raisons qui affligent beaucoup de médias, dont le nôtre. Alors, on va amputer d'un mois, mais on revient en septembre. Donc, c'est notre dernier parce qu'au mois de mai, on va beaucoup donner d'espace aux résultats politiques. Mais là, on va laisser la politique de côté parce que c'est pas toujours très drôle. Hein. Ben, ça dépend. OK, on va s'en tenir. J'en ai une qui rit. On parlait de films.
De films. J'en ai deux à vous proposer.
Est-ce qu'ils sont drôles?
Non. Le premier, là, je vous le dis, vous allez me trouver quétaine, là. Après la fin du film, j'ai pleuré pendant une heure de temps. J'étais inconsolable. C'est un genre de love story version gay.
Ah.
Alors, ça s'appelle Divulgacheur. En version originale, c'est Spoiler Alert. C'est sur Illico Plus, les deux films en passant.
Okay.
C'est une comédie dramatique romantique réalisée en 2022 par Michael Showalter. Il s'agit de l'adaptation des mémoires du journaliste Michael Osiello. C'est une histoire vraie. Mm. Un récit des 11 mois passés entre le moment où son compagnon Kit Cohen s'est vu diagnostiquer un cancer en phase terminale et le décès de ce dernier. Les deux acteurs qui incarnent les protagonistes sont réellement issus de la communauté LGBTQ. Il s'agit de Jim Parsons, dans le rôle de Michael Osiello, le journaliste. Parsons qui fut le gagnant de plusieurs Emmy Awards pour la série The Big Bang Theory.
Mm-hmm.
Et le franchement très beau, je me permets de le dire, Ben Aldridge.
Ah, il est très beau, mais quand il... Bon, parce que là, je...
Tu l'as vu, le
spoiler
film?
Spoiler alert, ouais. Ben oui, je l'ai vu. Bon. Du temps que j'étais abonné à un certain réseau qui s'appelle Netflix, qui est américain.
Il est encore sur Netflix, mais c'est sur Illico.
Mais là, je me suis débarrassé de Netflix, vous c'est savez ça. Pourquoi. Oui, il était très beau, puis c'est étonnant comment est-ce qu'on le transforme à la fin.
Ah, c'est extraordinaire.
Et effectivement, moi et aussi, j'ai passé la mop chez nous pour avancer mes larmes.
Oui, oui. Et il y a Sally Field, hein, qui fait la mère de Kit. Sally Field, qui est une actrice très, une bonne alliée pour la communauté LGBTQ. Donc, l'histoire racontée par Michael détaille leur relation de 14 ans menant à la mort de Kit. En 2001, Michael, journaliste pour TV Guide, est invité dans une boîte de nuit gay par son meilleur ami à Manhattan. Là-bas, il rencontre Kit, un photographe, et les deux hommes créent un lien instantanément, malgré d'énormes différences entre les deux, sur le plan physique, les goûts, etc. D'autant que Michael est extrêmement insécure, étant auparavant une personne en surpoids. Alors, il n'ose même pas retirer son T-shirt en face de son amoureux, donc c'est vous dire.
Ah, ça vient chercher. Cette scène-là vient chercher parce qu'on a tous un peu ce petit saboteur en nous qui nous dit « Ah, t'es pas assez beau, t'es pas assez fin. » Puis garde ton chandail, ça va être mieux.
Ouais.
C'est moi à moi qui dis ça.
et de moi à moi aussi. Mais ils reconnaissent tous les deux leur crainte d'être dans une relation à long terme, puisqu'aucun d'eux n'en avait eu auparavant. Alors, ils décident de continuer à se fréquenter, et lors de leur premier Noël ensemble, Kit donne à Michael son propre placard dans son appartement, invitant donc son copain à vivre avec lui. 13 ans plus tard, après de nombreuses années de bonheur, le couple bat de l'aile. Michael est très préoccupé par sa société et soupçonne Kit d'avoir une liaison avec son collègue Sébastien, ce qui est effectivement le cas. Alors, ils se mettent alors à suivre une thérapie de couple, mais décident finalement de se séparer. Parallèlement à tout ça, Kit commence à montrer des signes de mauvaise santé et est rapidement diagnostiqué d'une forme rare de cancer neuro-endocrinien de stade 4. Le combat contre la maladie de Kit va resserrer les liens entre Michael et Kit. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est un film qui rappelle un peu Love Story. C'est un film qui rappelle un peu Tendre Passion, Terms of Endearment, avec Shirley MacLaine. D'ailleurs, il est fait référence à ce film-là dans le film Divulgacheur. C'est un film qui est vraiment très, très touchant. L'autre film est aussi sur Illico. Ça s'appelle Chum, au pluriel, en anglais Bro.
Oui, j'ai vu aussi.
Tu l'as vu, ça aussi. Ouais. Alors, une autre comédie romantique réalisée aussi en 2022 par Nicholas Stoller. Ça a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2022. Alors, le synopsis est le suivant. Bobby est un animateur de podcast et militant pour les droits des gays qui ne croit plus en l'amour depuis belle lurette. Névrosé, il est heureux d'aller à des rendez-vous Tinder et se contente de ne pas avoir de relations sérieuses. Tout change lorsqu'il rencontre Aaron, un notaire tout aussi détaché. Attirés l'un vers l'autre à plusieurs reprises, les deux hommes commencent à montrer leur côté vulnérable alors que leur attirance se transforme en quelque chose qui ressemble à un engagement. Ici aussi, les deux acteurs sont issus de la communauté LGBTQ. Billy Eichner, qui fait Bobby, et Luke McFarlane, qui fait Aaron. Et oui, c'est ça. Donc, Chum se présente comme la première comédie romantique gay produite par un grand studio américain. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ainsi que ça se présente. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. On passe vraiment du bon temps avec cette production qui se déroule tant à New York que dans la célèbre petite ville de Provincetown, qui n'est pas déjà allé faire un tour là.
Mais on n'y va plus maintenant.
C'est fini.
C'est fini, ça.
Pour au moins 4 ans et probablement plus.
Ouais. Ben, tu me permets, je vais faire un commentaire sur ce film. Moi, je suis d'accord, c'était vraiment le fun, mais j'ai l'impression qu'on me faisait un grand cinéma, un grand studio qui faisait, là, je vais cocher toutes les cases. OK, là, j'ai ma drag queen, j'ai ma personne racisée. Et à la longue, je n'avais pas l'impression que c'était... Excuse-moi, je ne cherche pas le mot français. C'était pas genuine.
Ben, écoute, j'ai lu une critique qui dit que le film s'enlise peu à peu dans des clichés.
Oui.
Qui dénonce avec... Tu sais, que le film voulait dénoncer lui-même au début, mais il s'enlise lui-même dans ça. Et c'est vrai qu'il y a la personne trans, la drague, le bi.
Oui.
Il y a vraiment, tout est là. C'est vraiment, on a voulu mettre, c'est peut-être même un peu trop, mais quand même, ça passe.
Ben moi, je voyais ça comme du faire-valoir, mais bon, cela dit, c'était ma réaction. Je suis toujours très dur quand je regarde des films, surtout produits par des grosses boîtes hollywoodiennes.
C'est sûr que c'est pas nécessairement un film à Oscar non plus, pas du tout.
Mais de toute façon, j'ai eu le même problème, and Just Like That, la suite. Et là tu avais exactement la même chose. On voulait cocher toutes les cases dans cette série-là. Et moi, la langue, ça m'a déplu parce que, je ne sais pas vous autres, là, mais je trouve qu'à un moment donné, là, si vous voulez parler de nous...
Allez-y plus en profondeur.
Quand la courbe narrative du personnage se restreint à « c'est une personne trans », tu fais « non, il y a plus de nuances là, dans la vie ».
Oui, il y a plus de nuances que ça dans la vie,
je suis d'accord avec toi,
On continue.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et on va parler littérature. On a beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de monde qui va en parler. On va commencer par Daniel French. Daniel French est auteur. Il a publié, en fait, c'est son sixième livre. Moi, j'ai beaucoup aimé toute ta première série qui est allée en théâtre, Daniel. On se rappelle L'eau des nuages, Entre le rose et le noir, Melting Blue, Delicious. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre cette fois-ci, Suicidez-moi? J'avoue que quand j'ai obtenu ma copie, je dis, oh boy, je vais-tu me jeter en bas d'un pont après avoir vu ça?
Tu l'as pas fait, c'est déjà bon?
C'est bon. Non, je te taquine, Daniel. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire surtout que c'est de la poésie, c'est la première fois que tu en publies aussi.
Oui, mais c'est pas la première fois que j'en écris. J'ai toujours écrit de la poésie. Sauf que pour moi, c'est facile, fait que je voyais pas l'intérêt d'en publier. Donc là, je me suis décidé l'année dernière, pendant mon congé de maladie, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un congé de maladie pour dépression et anxiété. Donc j'ai eu 3 mois de congé. J'en ai profité pour mettre ce que je ressentais sur papier. Puis c'était pas une belle période de ma vie, c'était un côté très sombre. Fait que tout ce qui me levait le cœur, tout ce qui m'écœurait dans la société, je l'ai mis en mots.
Oui. Là, je faisais des blagues. Non, effectivement, je n'avais pas l'idée d'aller me jeter en bas d'un pont, là. C'était pas ça. Mais j'avoue que ça m'a touché parce que c'est des choses que beaucoup de personnes de nos communautés vivent. Et toi, tu as eu je ne sais pas ce qu'on va dire, le privilège, mais la bonne idée où tu as été bien guidé, tu es allé chercher de l'aide. Beaucoup de nos personnes, de nos communautés ne vont pas chercher d'aide.
Oui, en effet. Ben, on se pense fort, malgré le fait qu'on ne voit pas bien. On se pense fort, on se dit « Non, non, ça va passer, je vais aller bien. » À un moment donné, tu réalises que non, tu ne vas pas bien. Moi, c'était rendu que je laisse mon balcon, j'habite au 6e étage. Puis la question que je me suis posée, qu'il y a eu un gros déclic, c'est que j'ai regardé en bas de mon balcon, puis je me suis demandé qu'est-ce qu'allait faire le plus mal, ce que je vis présentement ou tomber en bas du balcon.
On est content que t'es pas tombé en bas du balcon.
Non, puis c'était drôle, c'était le jour de ma fête en plus. Fait que moi, le jour de ma fête, je suis toujours un peu plus down qu'habituellement. Fait que j'ai décidé de sortir, d'aller me promener, m'asseoir dans un bas de parc. Fait que ça, c'était... Là, j'ai encore de la difficulté à en parler parce que je me souviens comment c'était
difficile. Oui, je vais te laisser le temps de te recomposer. Je vais aller voir Brian. Excuse-moi, Brian, on va aller plus vite. On va revenir à Daniel. Toi, tu voulais nous parler de deux titres aujourd'hui. Moi aussi, j'ai lu « Fucked Up Story » de Nicolas Giguère.
C'est spécial, hein?
Oui. Écoute, Nicolas, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Giguère, c'est tout un auteur et il fait des livres assez particuliers. Moi, je me rappelle de petites annonces où je rigolais, puis à la fin, je ne rigolais plus.
Bien, c'est ça. Ce petit nouveau recueil de poésie-là, feu d'artifice, explosion, je ne sais pas trop. Ça s'ouvre sur une vengeance littéraire. Il nous dit au début, jance des petits amis du milieu littéraire, il y en a qui devraient prendre leur gaz égal dans la vie. Et là, c'est une longue suite de plein de choses qui mélangent. Il me présente plein de pensées, littérature, scénario, projet de roman. Il y a de la culture populaire, il y a des références, on nomme des noms, on parle de téléromans, de chansons, de couples, de sexualité, de cuisine, plein de choses. On est quelque part entre l'humour et une espèce de règlement de compte avec la société dans ce livre-là. Un livre qu'on lit beaucoup pour l'énergie. Je trouvais ça très heavy metal, par exemple, mais je trouvais qu'on lisait plus ça pour l'énergie que pour les images poétiques. C'était déstabilisant, très in your face, là, mais on sent que c'est son intention, c'est son style d'écriture. Moi, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de lien. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il me lise ce livre-là pour comprendre un peu son rythme poétique. Parce que je l'ai lu, j'ai été frappé par tout ce qu'il me disait, mais...
C'était fucked up, comme diraient les jeunes. Hein?
Ben, c'est ça. Je cherchais sa direction. Ses images étaient beaucoup là. C'est très fort comme écriture. Mais j'étais un peu assommé par tout ce court livre-là. Faudra le relire, « Fucked up » de Nicolas Giguère.
En fait, habituellement, Nicolas nous fait des choses assez surprenantes, mais je ne trouvais pas le fil conducteur. J'espère qu'il ne va pas se fâcher contre moi en écoutant ça aujourd'hui, mais je ne trouvais pas autant le fil conducteur que je le trouvais dans ses autres, parce qu'il a écrit des choses. Et le face, là, c'est quand même assez fort, ça. Merci. Là.
Oui. Ben, j'étais un petit peu dans le même mot que toi, donc on sera deux à avoir peut-être manqué le fil qui nous menait dans toutes ces pensées-là. Très heavy metal, comme je disais, là, comme écriture.
Les étoiles comme des petits poissons qui... Excuse-moi. Juste avant, on va dire que Fucked Up Story de Nicolas Giguère, c'est quelle maison d'édition? Déjà, c'est AMAC, je pense.
C'est Hurlante Poésie.
Hurlante Poésie. Mm-hmm. Allons voir Les étoiles comme des petits poissons. C'est un roman que j'ai lu moi aussi d'une écrivaine trans Manitoba qui vient de paraître chez AMAC.
Ben oui, on vient de parler tantôt pour mettre un personnage trans. Là, vraiment, on est vraiment dans quelqu'un de trans. Cassie Plett, qui est une écrivaine manitobaine, trans elle-même, connaît vraiment bien le sujet. Un livre qui s'ouvre d'ailleurs aussi, on parle de personnes trans, sur des notes des traducteurs qui ont dit qu'ils ont fait une première traduction de ce livre-là. Puis ensuite, ils ont demandé à quelqu'un qui s'appelle Amélia Fizette, qui est une personne trans, de relire le manuscrit qu'ils ont fait de ce livre-là. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié plein de micro-agressions, qu'il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont dû reprendre le travail, vraiment, de la traduction pour mieux être en accord avec ce qui se passe avec les personnes trans. Donc, une belle note qui nous met en garde au début. Donc, on va lire ce livre-là avec beaucoup plus d'attention. L'histoire, c'est que Wendy, le personnage trans de ce livre-là, est au téléphone, apprend que son grand-père, qui est un Mennonite des prairies, aurait été comme elle. On lui dit ça au téléphone, une ancienne amie de sa grand-mère. Et là, elle va se demander, mais comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Gay, est-ce qu'il était trans? Blablabla. Donc, c'est un peu la quête qu'on va chercher de comprendre tout le long du roman. qu'est-ce qu'il était son grand-père finalement. Mais moi, j'ai presque le goût de vous dire que cette histoire-là est complètement accessoire parce que finalement, on en parle, mais ce n'est pas le cœur de ce roman-là, ce n'est pas ce qui va rendre ça intéressant. C'est la vie de cette femme-là. Il y a énormément de côtés sombres. On voit les micro-agressions à cœur de jour, les difficultés sociales, trouver des emplois, se promener dans la rue, sortir, avoir des relations avec des gens, des gars, des filles. Souvent, des gens qui ont des vies difficiles. Le travail du sexe est très présent, les drogues, trouver des hormones de contrebande qui viennent des États-Unis parce qu'on n'a pas accès à ça au Canada. Il y a énormément de sujets hyper lourds dans ce livre-là, mais on est vraiment. C'est bien décrit, c'est bien rendu, mais beaucoup de moments de lumière aussi, de la solidarité entre ces personnages-là. Ils ont une famille de personnes queer autour d'eux qui les supportent. Ils se tiennent beaucoup entre eux autres, même si c'est difficile. Il y a de la solidarité, il y a des études qui se font. Donc, un roman assez épais, vraiment sur une réalité trans. C'est rare qu'on voit ça. C'est très étoffé, très intéressant. Ça avait gagné d'ailleurs le prix du meilleur premier roman au Canada quand c'était sorti en anglais. Et la traduction vient de paraître chez AMAC en français.
Je
Donc, très intéressant
peux
à
poser
lire.
Une question? Oui, je me demande, c'est-tu de la fiction? C'est une autobiographie, autofiction?
J'ai cru comprendre que c'était juste de la fiction, mais l'auteur elle-même est trans, donc
Inspiré de
probablement
ses
une
réalités.
réalité qu'elle connaît très bien, là, oui.
D'accord, merci.
Ben, en fait, puis je suis content que tu poses la question, j'allais la poser. Bien, il y a un autre point que j'ai aimé dans ce roman, c'est moi, je trouve que ces amitiés-là, ça me parle. J'aimais. Puis tu sais, ils s'envoient des petites affaires, puis, mais ils ont une très belle solidarité entre eux. Vraiment, ce roman me
Ben
fait
c'est
un
ça,
grand
ils
bien.
se tiennent, ils se prennent des nouvelles entre eux. On voit l'importance que ça a, la communauté, quand on fait des choix, quand on sort du garde-robe, qu'on se retrouve avec la famille choisie, là.
Oui.
Elle est vraiment très présente là-dedans, la famille choisie, parce que dans un milieu en plus comme les prairies, très conservatrice, elle vient d'une famille mennonite, donc le conservatisme, l'histoire, là, c'est jamais très loin.
En tout cas, j'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec son père, avec Ben. C'est vraiment beau aussi,
Oui.
c'est ce qui se passe là. J'aimerais revenir à Daniel,
Oui.
parce que tu as quand même publié d'autres livres. Je pense que
Oui.
tu en as lu quelques-uns toi aussi, Brian, des livres de Daniel French, L'eau des nuages.
Encore,
Pas
ça, je suis en train
encore.
de me dire, mon Dieu, mais c'est ça, cette panique-là, je me rends compte. Il y en a tellement de romans à lire de nos réalités, là.
Qu'est-ce qui t'inspire en général dans la vie quand tu écris?
Ah, oh, mon Dieu, tout.
Ouais.
Ce que je vais vivre, ce que mes amis vont vivre. Des fois, un petit reportage aux nouvelles à la télévision, ça va me faire un déclic. Tout est inspirant.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de L'eau des nuages et sa suite, Le rouge et le blanc, puis en tout cas, tu avais toute une série, mais c'était devenu une pièce de théâtre que
Oui,
Marc-André Cazavant
oui.
avait montée.
Oui, L'eau des
Et
nuages, oui.
ouais, c'était aussi très beau, parce que tu parles du VIH à une époque où c'était
En effet.
pas si facile.
Puis que mon personnage qui est atteint du VIH, lui, il en peut plus. Fait qu'il décide de mettre fin à ses jours. Mais tu sais, j'ai mis ça romantique. C'est sûr que
Ben
j'ai
oui.
mis ça beau parce que l'histoire, c'est pas vraiment un drame, là.
Ouais.
C'est un drame qui fait que mes personnages vont trouver le bonheur avec ce qu'ils vivent avec la perte d'un ami.
On peut trouver tes livres où, quand, comment?
Où, quand, comment?
Ouais.
Mes livres sont disponibles sur le site lulu.com.
Oui.
Fait que ça, c'est un, excusez l'expression anglaise, un print on demand.
Oui, tout
Donc,
à
on
fait.
commande et on
Impression sur
imprime.
demande, oui.
Oui,
Oui.
exactement. Puis c'est pas américain, c'est mondial, puis l'imprimerie est à Toronto. Fait qu'il n'y a pas de
Alors,
danger là.
on va arrêter de dire que tout ce qui est américain n'est pas bon, mais quand même, on fait
Ben,
attention.
voilà.
Prochain projet bientôt? À part
Oui,
le nouveau roman, oui.
ben, le nouveau roman qui va être prêt pour le mois de mai, donc très bientôt. C'est une satire des romans harlequins, mais à thème LGBT.
Ah, dont
Donc,
on a vu la couverture,
oui, oui,
qui est
oui.
très belle.
Avec des beaux
deux beaux
cow-boys.
cow-boys, ça peut
Ben,
pas,
un
pas.
cow-boy et un étudiant.
Oui,
Ben,
ça peut pas être beau.
ben oui, on tombe dans les critères de beauté. Ben, merci Daniel. Moi, je vais me permettre quelques petits commentaires aujourd'hui. J'ai reçu La Maison des Non-dits, la biographie de RuPaul. Ben, moi, je ne vous recommande pas la lecture de ce livre-là parce que RuPaul a vécu. En fait, moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est RuPaul a eu des problèmes de consommation de drogue et tout ça. Mais on parle surtout de ce qu'il portait pendant qu'il consommait de la drogue. Là, j'exagère, mais c'est très, très, très superficiel. Puis moi, je m'excuse, mais tu sais, une autobiographie. Tu sais, des fois, on s'auto-censure. Alors, Par contre, je vais vous parler d'Éric Noël, « Ses regards amoureux de garçon altéré ». Je suis allé voir la pièce de théâtre. J'ai lu ce texte avant de l'interviewer. Le livre est disponible chez Leméac. Cette pièce de théâtre est à guichet fermé, mais je vous recommande quand même d'aller sur le site du Théâtre Prospero à Montréal et d'indiquer votre intérêt parce qu'ils vont certainement reprendre cette pièce qui est magnifiquement jouée par Gabriel Zabot, une mise en scène absolument géniale de Philippe Cyr. Alors, je vous recommande ça. Bon, j'ai fait mon coup de gueule et mon coup de cœur. Les amis, je vais vous dire un grand merci. C'est vraiment notre dernier Culture Queer de la saison, mais on va le reprendre en septembre. Merci beaucoup de ta patience et de ta participation, Brian, puis on va compter sur toi l'an prochain.
Mais oui, je serai de retour. Lisez cet été.
Ouais, puis
je vais lire le prochain roman de Daniel.
Tu vas lire... Oui. Donald, merci beaucoup, comme
ce
toujours.
Ce fut un plaisir pour ma troisième année.
Merci déjà. Beaucoup. Et à mes invités aujourd'hui, c'était vraiment le fun de vous recevoir. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté.
C'est un plaisir.
C'est petit. On est un peu fou à Culture Queer. On aime bien le happening, puis que les gens se parlent, et puis on mélange tout le monde ensemble, et puis ça donne de très beaux résultats. Alors nous, on va aller voir le show queer, ça, c'est
oui.
Clair. C'est clair. Dès que vous êtes à Montréal ou dans une place où je peux aller, c'est certain. Daniel, bon succès.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
Pour joindre l'équipe de L'Heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 113 du 21 avril 2025. Merci à toute l'équipe parce que ça se fait pas tout seul, cette émission-là. À la recherche, donc, Godéric Trobe et Marie Massé. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et merci à toute l'équipe de Canal M qui fait en sorte qu'on puisse diffuser une très rare émission sur les enjeux et les actualités LGBT.